Bonsoir à tous, vous êtes toujours sur Aleph et je suis de retour pour vous parler d'une sortie de chez l'éditeur Delcourt. On va encore une fois parler super-héros, excusez-moi, je ne change pas. Je vais vous parler ce soir de Irrécupérable, sorti chez Delcourt au mois de mai. Il s'agit d'une adaptation d'une série qui s'appelle Irredeemable, voilà, je l'ai dit, que le tome 1 qui vient de sortir, qui s'appelle Sans Retour, est écrit par Mark Waid, dessiné par Peter Kreuz. Alors Delcourt nous livre là un beau volume avec une couverture dure qui nous permet de le ranger tranquillement dans notre petite bibliothèque. Alors il faut savoir qu'au départ, c'est une série qui est sortie chez un indépendant aux États-Unis. Donc l'indépendant, donc, c'est chez Boom Studio. De toute façon, c'est très simple, hein, cette couverture, vous la reconnaîtrez très facilement. C'est la couverture sur laquelle on voit un mec assis sur un trône avec les mains dégoulinant de sang. Ce que je dis, moi, c'est que ça place tout de suite bien l'atmosphère de cette série apocalyptique. Apocalyptique, le mot est bien trouvé, car rarement on aura trouvé une situation de fin du monde aussi prenante. Alors il s'agit donc de notre monde, hein, la Terre, bon, sur une Terre parallèle effectivement, où les super-héros existent, jusque-là pas de problème, on connaît bien ces bases-là, sauf que sur cette planète, il existe un héros, le premier et le plus grand des héros, qu'on appelle le Plutonien, qui a tout simplement décidé de passer du côté sombre de la force. Et oui, après des années de bons et loyaux services au service de l'humanité, il se dit que de toute façon, les humains, ils sont jamais contents. Il passe son temps à faire des choses extraordinaires, à éviter des catastrophes, et on lui fait toujours des remarques désagréables, on critique son côté costume en collant, enfin, tout plein de réflexions désagréables sur sa sexualité, entre autres. Bien, toujours est-il qu'au bout d'un moment, eh bien, c'en est trop. Une petite remarque en trop, une petite réflexion, un petit coup d'œil, ça tient à rien, fait qu'en sorte, il bascule. Il bascule et là, il décide, il y a une sorte de révélation. Il se dit qu'en fait, faire le bien, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, ça ne lui apporte que des ennuis après tout. Et que du coup, il n'a plus à s'embêter avec ces gens dont la chair est tellement fragile, l'essence tellement limitée et après tout, avec une intelligence qui, comparée à lui, n'est pas plus grand que l'intelligence d'un épagneul ou de n'importe quel petit chiot qu'on promènerait dans la rue. Alors vous voyez bien qu'avec ce genre de réflexion, les choses ne vont pas bien tourner pour nous, hein, pour les humains. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, les Plutoniens, le Plutonien, donc ce héros très solaire qui n'est pas sans rappeler quand même furieusement Superman, va décider de céder à toutes ses pulsions. Voilà. À partir de maintenant, il fera ce qu'il veut, quand il veut, et rien ne pourra l'arrêter. Enfin, rien. Il y a quand même ses anciens collègues, donc qui formaient avec lui une sorte de ligue de justiciers, de ligue de justice, qui connaissent ses pouvoirs, qui connaissent sa façon d'agir, et qui pourraient, alors peut-être pas lui poser de gros problèmes, mais en tout cas être source d'une nuisance dont il compte bien ne pas s'embarrasser. Et bien à partir de là, cet homme, quand il décide quelque chose, et bien il le fait. Il décide en fait tout simplement d'éliminer au fur et à mesure ses coéquipiers. Alors ceux-ci ne sont pas bêtes, hein, ils s'aperçoivent très rapidement qu'ils ont un gros problème sur les bras. D'autant plus que connaissant bien le Plutonien, ils ont une très bonne idée de ses capacités et qu'une fois passé du côté sombre, une fois que celui-ci décide que rien ne pourra l'arrêter, ça devient très compliqué. Le Plutonien va décider de s'occuper de leur cas, du cas de ses coéquipiers. Ceux-ci, qui vont pouvoir échapper à une ou deux de ces actions, vont se réunir et ces survivants, parce que c'est vraiment des survivants, parce que le Plutonien ne fait vraiment pas dans le détail, vont comprendre qu'ils ont tout intérêt à se dépêcher de trouver une façon d'arrêter le Plutonien avant de succomber les uns après les autres, voire tous ensemble. Et en fait, c'est ce qui arrive un peu tout au long de ces 6 épisodes, même s'ils avancent un peu dans leur quête, il y a quand même beaucoup de morts dans leur rang. Il décide donc d'essayer de l'arrêter, et après avoir échangé différentes informations sur ce fameux personnage, sur ce plutonien, il s'aperçoit qu'en fait, il connaissait surtout l'icône, le héros, donc le plutonien, mais en fait, ils ignorent qui il est derrière. Dans la vie de tous les jours, quand il n'est pas en train de sauver le monde, qu'est-ce qu'il fait? Quels sont ses hobbies? Quelles sont ses peurs? Quels sont ses rêves? Et ça, ils s'aperçoivent qu'après toutes ces années passées à ses côtés, ils ont un peu omis de s'intéresser à lui, en tout cas à ce niveau-là. Et c'est donc ainsi qu'ils s'aperçoivent qu'ils ont un vrai problème, car ils ne connaissent pas tant le plutonien qu'ils le pensaient. D'où course contre la montre pour essayer de rassembler le maximum d'informations possibles. Et c'est cette quête à travers le temps et l'espace que raconte en grande partie Irrécupérable. Scylla, Charib, Gilgamos, Samsara, Kaidan ou encore Kubik vont partir dans cette histoire, dans cette quête, qui vont explorer des événements passés, alors sous forme de flashback qui arrive régulièrement et qui ponctue le récit, afin de découvrir voilà qu'est-ce qui a fait basculer ce personnage et surtout comment le battre. Au programme, il y aura donc des révélations, des retournements de situation, et tous les personnages n'en sortiront pas indemnes, puisqu'il y a des très très vilains secrets qui vont remonter à la surface, des secrets que cette équipe cachait en son sein depuis un petit moment déjà. Quel constat peut-on retirer de la lecture de ces 6 premiers épisodes réunis dans ce volume Irrécupérable, hein, dont je vous rappelle c'est le tome 1, qui s'appelle Sans Retour, qui vient de sortir chez Delcourt? Alors on retrouve une histoire qui est quand même incroyablement inspiré par la Justice League, donc cette équipe de super-héros de la DC qui réunit en son sein des personnages comme Superman, Batman, Wonder Woman ou encore Green Lantern. Et c'est Mark Waid qui est un scénariste qui est quand même pétri de toute cette culture de ces 60 dernières années de culture de super-héros, qui là nous livre sa réflexion sur le surhumain, mais aussi sur la notion de pouvoir. Comme Mark Waid a une énorme culture de ce genre, du genre super-héros, il remet en place plein de gimmick de lieu commun du récit de super-héros, c'est-à-dire le personnage comme le plutonien, et on s'aperçoit en fait qu'il travaille dans une station de reportage, qu'il porte des lunettes, costume, cravate, qu'il est amoureuse de sa collègue journaliste. Il y a aussi des personnages qui ont des sidekicks, des bases secrètes. On est vraiment là dans qui fait le super-héros américain tel qu'on le connaît. Et Mark Waid donc s'amuse à dévier, à corrompre tous ces lieux communs et à montrer quand les choses se passent mal, quand les choses se passent pas bien, quand ça dérape. Et c'est ainsi que peu à peu, il y a une impression vraiment de malaise dans ces personnages, et on s'aperçoit qu'effectivement, ça pouvait que très mal tourner à un moment donné, puisque quand on réfléchit un peu à tous ces éléments qui constituent la vie du super-héros, tout cela ne peut mener qu'à peut-être pas à la folie, mais en tout cas à la paranoïa, à un énième degré, surtout qu'on est maintenant dans une époque où les conflits entre les vilains et les gentils sont extrêmement violentes et meurtriers pour les personnages, mais aussi pour tous ceux qui les entourent. Cela n'a vraiment rien d'étonnant, hein, quand on connaît un peu le scénariste Mark Waid. C'est quelqu'un qui a fait plusieurs récits tout au long des années 90, qui a bien marqué le genre. C'est entre autres le scénariste qui était derrière la série Flash, derrière la maxi-série Kingdom Come, voire même Empire, qui était aussi des réflexions sur la corruption du pouvoir. En plus, hein, quand on lit la préface de ce volume, d'Irrécupérable tome 1, il y a une préface de Mark Waid qui explique bien que pour lui, Irrécupérable se place dans la lignée de ce qu'il avait déjà commencé à faire avec Kingdom Come et Empire, et que pour lui c'est un triptyque. Voilà, ces trois œuvres composent une triptyque sur le pouvoir, sur le super-héros. Il est appuyé dans sa démarche par un dessinateur qui s'appelle Peter Krause, qui a vraiment un trait années 50, années 60, avec des dessins qui sont un dessin académique qui évoque cette fameuse âge d'or, avec surtout une très belle efficacité lors de ces scènes de flashback, puisque, comme je vous l'ai dit, hein, les personnages donc, qui sont poursuivis par donc, le plutonien parcourent la planète en essayant de récupérer des éléments historiques ou des preuves donc, de ce qu'a pu faire le plutonien quand il quand ses amis ne l'avaient pas sous les yeux, et que donc ça donne lieu à beaucoup, beaucoup de scènes de flashback. Et donc il y a toujours vraiment cette impression, c'était mieux avant, quoi. Du coup, le dessin de Peter Krause est un peu passe-partout. Alors, et en plus, ce n'est pas le travail de l'encreur qui va mettre un peu plus de... va plus attirer l'attention sur le dessin. Non, c'est avant tout une série qui repose sur le talent du scénariste. Et le dessin est vraiment au service de la narration. Alors, Wade mélange les événements globaux, c'est-à-dire qu'on a effectivement ce personnage surhumain qui est autour de la planète, qui ravage des pays, c'est la catastrophe, il y a des gens qui meurent partout, et avec des éléments, je dirais, d'un récit sentimental, un peu à l'eau de rose, hein, comment dire, les personnages, effectivement, puisque tout le monde a des secrets qui sont un peu cachés et qui va faire exploser le groupe, en quelque sorte. Alors, on sent bien que des personnages comme Charib et Scylla partagent un secret douloureux. On sait bien que Beth, qui est l'une donc, des justicières qui travaillait avec le plutonien et qui est mariée à un autre super-héros, a été quand même très très proche du plutonien. Peut-être a-t-elle été sa maîtresse. Enfin, on sent des choses. Mais le mélange, en tout cas, en ce qui me concerne, me semble pas prendre, en tout cas pas dans ce premier volume, même si je sens ce que veut dire le scénariste, malgré tous ces détails d'empathie qui visent à faire en sorte que le lecteur s'identifie au personnage, à ce qui leur arrive, on reste quand même un peu en dehors du récit. Qu'est-ce qu'on en retire comme impression générale, en tout cas? Si on compare à d'autres récits qu'a pu faire Mark Waid, là je compare vraiment à Kingdom Come et à Empire, eh ben, il faut bien dire que c'est moins bien. Hein, effectivement, alors que Kingdom Come avait une dimension planétaire qui était vraiment impressionnante, en plus secondée par le dessin d'Alex Ross, et que Empire avait ce côté bad guy, tout corrompu, qui vraiment filait des frissons dans le dos. Eh bien, pour Irrécupérable, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop où il veut aller, même s'il a une très bonne idée de faire en sorte que toute une partie de l'histoire est narrée en fait par les personnages, les anciens équipiers du plutonien, donc qui donnent leur point de vue sur ce qui se passe. Et en fait, on n'est pas du tout dans l'esprit du plutonien. On ne sait pas quelles sont ses motivations. Et c'est peu à peu, tout au long des flashbacks qui vont succéder, qu'on voit voir des indices qui vont sortir pour expliquer pourquoi le personnage a dérapé. Et c'est vrai que là, Peter Krause a fait un bon boulot, quoi qu'on en dise, puisque quand on regarde bien les dessins, on s'aperçoit de positionnement de personnage, regard d'un personnage vers un autre, il se passe des choses au niveau du dessin. Mais c'est peut-être à la deuxième, troisième lecture qu'on s'aperçoit qu'il y a des indices qui sont glissés dans les cases. Donc il faut vraiment revenir sur le récit plusieurs fois. Ainsi, à trop s'inspirer donc du monde de la DC, de la Justice League et ainsi de tous les éléments communs du genre super-héros, eh bien Mark Waid avec Irrécupérable n'arrive pas, en tout cas à mon humble avis sur ce premier volume, à sortir de l'ombre de ses inspirations. Effectivement, le plutonien est très puissant, mais il rappelle juste Superman en moins bien. Donc ça, c'est quand même extrêmement, extrêmement dommage, même si Wade revient sur des éléments qu'il avait déjà explorés auparavant, sur qu'est-ce qu'un surhomme, qu'est-ce que le pouvoir, est-ce qu'un homme tout-puissant n'a que deux choix, soit l'attentisme total, puisque effectivement il est séparé du reste de l'humanité par ses capacités surhumaines et qu'il n'y a pas de point de relation commun entre lui et les gens qui l'entourent. Donc ses besoins ne sont pas ceux des personnes qui sont en face de lui, et les gens en face de lui ne comprennent pas ce qu'il est. Voilà, donc il est un peu obligé de rester à part, rien ne l'atteint, rien ne le touche, et du coup il n'a pas à agir. Voilà, donc ça c'est vraiment le point le plus extrême de ce qu'illustre Mark Waid, en tout cas sur le super-héros. Et de l'autre, il y a l'interventionnisme total, le pouvoir d'un seul sur tous les autres. Et tous les personnages de Mark Waid sur ses différents récits qu'il a pu faire se trouvent quelque part entre ces deux-là. Alors, faut voir, faut attendre. Est-ce que à partir du tome 2, on va commencer à savoir, à vraiment rentrer dans le vif du sujet? Parce que là, pour l'instant, on est plutôt dans le sens d'une course-poursuite entre le plutonien et ses anciens coéquipiers. Et c'est vraiment à la fin du tome 1 qu'on commence à avoir des indices sur ce qui a pu faire basculer le personnage. Il faut voir, il faut attendre. Comme je vous l'ai dit, toi repose avant tout sur qu'est-ce qu'un super-héros, les situations de base qu'on connaît tous pour avoir lu des histoires de super-héros. Le dessin, malheureusement, ne vient pas en aide, n'est pas un argument de plus, voilà, pour lire ce récit. C'est vraiment pour les gens qui ont aimé Mark Waid, qui aiment les récits structurés, où on avance peu à peu en fait, dans le mystère. C'est à voir. À savoir, est-ce que le plutonien va devenir un personnage à part entière et s'emparer de son titre? Réponse dans le volume 2.